Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie d'être là en direct avec vous et de retour en studio ici à Europe 1. Ça fait du bien de revenir à nos habitudes et justement dans mes habitudes, il y a bien sûr mon acolyte, le docteur Jimmy Mohamed qui est là aussi en studio à bonne distance toujours. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux ados, ou plutôt aux relations parfois compliquées avec eux, particulièrement en ce moment où ils ne sont plus scolarisés pour certains. Leurs repères en tout cas ont été bien perturbés depuis quelques semaines. Alors dans cette émission, on va vous donner plein de conseils pratiques pour traverser cette période le plus sereinement possible en famille. En tout cas des conseils avec notre invitée, grande spécialiste du sujet. Ce sera la psychothérapeute Isabelle Filioza. Ensuite avec le docteur Jimmy Mohamed, je vous l'ai dit, nous reprenons aujourd'hui nos bonnes habitudes, mais nous répondrons quand même à vos questions, celles qui concernent les petits et les gros bobos du quotidien. Enfin vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question de jeux sexuels et d'aliments qui pourraient pimenter les rapports.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre quand même quelques minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions autour du coronavirus. On en reçoit encore. On va commencer par celle d'Arthur. Il a 37 ans. On l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai appris que l'Espagne allait rouvrir ses frontières au tourisme et j'ai l'habitude d'y aller tous les ans, ça tombe plutôt bien. Mais je voulais savoir si du coup le virus était toujours présent dans l'eau de mer. Est-ce qu'il y avait un risque d'aller se baigner, que les gouttelettes sèchent sur nous au soleil une fois qu'on sort de l'eau? Est-ce qu'il faut bien s'essuyer? Enfin voilà, donc j'avais quelques questions à ce propos de l'eau de mer et le virus. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, c'est vrai que les plages ont réouvert pour certaines, d'autres ont refermé. Néanmoins, l'été arrive, il va faire beau, donc on va vouloir y aller à la plage. Est-ce que dans l'eau de mer, à ce jour, on sait s'il y a un risque de coronavirus?
Alors tout d'abord, j'entendais parler de l'auditeur de gouttelettes. Ce ne sont pas les mêmes gouttelettes qui vont nous rendre malades. Nous, ce qui va vous transmettre le virus, c'est les gouttelettes salivaires et pas la gouttelette qui sèche. Et même si vous, derrière, vous la léchez, il ne se passera pas grand-chose si c'est de l'eau de mer. Une étude a été menée par IFREMER, qui est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Ils ont analysé sur des coquillages, sur des huîtres et aussi le long du littoral des échantillons d'eau pour savoir si on arrivait à détecter du trace du virus dans des zones particulièrement en risque. Alors ça s'est fait pendant le confinement, mais les résultats sont plutôt rassurants puisque aucune trace du virus n'a été retrouvée. Mmh. Ils vont continuer malgré tout ces études pendant tous les 15 jours, pendant plusieurs mois
pour vérifier, être sûr. Mais oui, exactement, parce que là maintenant il y a plus de monde sur les plages et dans l'eau aussi.
Ouais. Exactement, pour être sûr que ça ne soit pas vecteur de la maladie. À ce stade, on pense que c'est simplement encore interhumain, donc il n'y a pas de risque de vous baigner, si ce n'est celui de la promiscuité. Forcément, qui dit baignade dit parfois jeu, et donc à ce moment-là, si vous avez quelqu'un en face de vous qui se met à tousser, il est possible...
Ah oui, dans l'eau comme sur terre, il va me contaminer, c'est
exactement.
Ça.
Donc c'est plus l'homme qui vous transmettra le virus et pas forcément l'eau en tant que telle. Et puis un peu la même chose pour la piscine, on pense que le chlore contenu dans la piscine pourrait détruire le virus. Oui. Mais encore une fois, qui dit piscine dit promiscuité, et pour ceux qui ont la chance d'avoir un jacuzzi, on pense que l'eau chaude va détruire aussi le virus. Donc le risque, encore une fois, il viendra de non-comportement, pas tant du milieu biologique ou du liquide dans lequel on est.
Donc même dans l'eau, finalement, on se méfie des autres baigneurs. Hein. C'est exactement. Ça aujourd'hui, plus que de l'eau de mer en soi. Jimmy, on va passer à une autre question. C'est celle de Thibaut. Il est à Paris. Il nous a écrit pour nous demander s'il était important, si important que ça, finalement, de savoir si on a eu le coronavirus. Il dit qu'il a été malade début mars, une sorte de grippe, écrit-il, que sa maman lui dit de faire une prise de sang pour vérifier si c'était bien le Covid. Vous en pensez quoi, Jimmy?
Je suis partagé, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul. Et donc, on ne sait absolument pas si les personnes qui vont avoir une toux importante, une gêne respiratoire, et surtout ceux qui ont été hospitalisés avec une atteinte pulmonaire, ne vont pas avoir des séquelles sur le long terme. Et donc, eux, on les invite plutôt à peut-être faire une sérologie quand elle sera disponible, pour un suivi pendant plusieurs mois, le temps d'être sûr qu'il n'y a rien. Autre interrogation, c'est celle de l'immunité. On pense malgré tout que les personnes qui ont développé le virus sont protégées et ne devraient pas faire, a priori, une nouvelle forme.
Donc, au moins, les mois qui viennent. Parce que c'est ça, c'est surtout la durée de l'immunité sur laquelle c'est très incertain aujourd'hui encore.
Exactement. Hein. Donc, on ne sait pas si ça va durer quelques semaines, quelques mois, peut-être comme plusieurs années, comme d'autres coronavirus. Hein, le SARS-CoV-1, enfin, le premier SARS, c'était plusieurs années. Donc, peut-être que vous serez protégés. Donc, pour l'instant, à part votre curiosité, je pense qu'il n'y a pas grand intérêt, sauf pour les personnes qui ont été hospitalisées. Mais de toute façon, elles sont plutôt suivies par des pneumologues. Et à ce moment-là, oui, mais pour l'instant, à titre personnel, pas forcément de grand intérêt. Continuez de mettre des masques, de vous laver les mains, on se met loin les uns des autres et peut-être que dans quelques semaines, on pourra un peu se relâcher et être un peu plus serein.
En attendant, restons sérieux. Alors Jimmy, on a encore une autre question qui nous a été posée sur le répondeur d'Europe 1, donc le 3921, c'est la question de Solène. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai remarqué là qu'avec les chaleurs qui étaient revenues, bah, les moustiques aussi, et j'arrête pas de me faire piquer, et du coup forcément je me pose des questions. Est-ce que vous pensez qu'ils puissent transmettre le coronavirus notamment? Je vous remercie, et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
On a pris celle-là, mais les moustiques, on nous l'a posé plusieurs fois ces derniers jours. Les moustiques, alors, Jimmy, porteurs, enfin transmetteurs du coronavirus ou pas ?
Oui, on peut se poser aussi la question avec le moustique tigre, qui est vecteur de nombreux
d'autres
virus.
Maladies,
donc peut-être
sûr.
Que ça fait partie des interrogations. En tout cas, l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, dit que non. Alors, l'explication, elle est plutôt simple. Le moustique, lorsqu'il pique quelqu'un de malade, il aspire du sang qui contient possiblement du virus. Sauf que ce sang va dans l'estomac, et du coup, est digéré et le virus est détruit. Il arrive parfois que le virus arrive à passer au travers de la paroi de l'estomac du moustique et se retrouve dans les glandes salivaires. Et au moment où le moustique va vous repiquer, il a besoin de ces glandes salivaires pour injecter un anticoagulant. Et au travers de cette injection, de cette piqûre, eh bien, il est possible qu'un agent pathogène, un virus, soit transmis. Ce n'est pas le cas, a priori, pour l'instant, pour le coronavirus, même si on sait que certaines maladies, comme la dengue ou Zika ou chikungunya,
bien sûr, oui.
peuvent être vecteurs. Mais pour l'instant, on dit que non. Attention, encore une fois, on s'est beaucoup trompé. Donc, on pourra se poser des questions dans des zones tropicales. Et peut-être que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on aura plus
de nouvelles choses. Mais à ce stade, c'est non en tout cas.
Et c'est non, et surtout qu'il y a une donnée plutôt rassurante, c'est que la charge virale, la quantité de sang, de virus, lorsque vous êtes malade du coronavirus, dans le sang est très faible.
Ouais.
Elle est quasiment indétectable, sauf chez des malades qui sont en réanimation, qui vont avoir forcément beaucoup de virus, mais même si vous avez une forme mineure, normalement, on n'a pas de traces dans le sang. Donc a priori, le risque serait nul, voire très négligeable.
Très bien, donc on peut aimer les moustiques un peu plus. Enfin bon, préfère se pas se faire piquer quand même. Hein. Jimmy, on va prendre une dernière petite question. C'est celle de Sacha qui nous a écrit. Elle a, je ne sais pas, 28 ans, elle s'interroge, je ne sais pas, sur la maladie de Kawasaki chez les enfants, en lien avec le Covid. Il demande quels sont les symptômes qu'on peut voir apparaître au début de cette maladie. Il veut savoir, pour être sûr de ne pas passer à côté chez son petit garçon, si ça devait arriver. Bon, c'est quelqu'un d'assez pessimiste, mais,
non, mais alors,
c'est rare,
d'une façon générale, il n'y a quasiment plus de virus en ce moment. Moi, je ne vois plus d'enfants malades. Donc, si votre enfant fait de la fièvre, il serait important de l'amener voir son médecin pour être sûr que bah, ce n'est pas du coronavirus ou autre chose. En ce qui concerne Kawasaki, c'est très difficile de passer à côté, car c'est une fièvre qui est prolongée. Chez des enfants qui ont un tableau digestif avec des douleurs abdominales, des diarrhées, c'est pas le plus classique.
C'est une symptomatologie cutanée aussi, je crois.
Une symptomatologie cutanée avec une éruption. On a la langue rouge et les lèvres rouges avec des ganglions et surtout un enfant qui est vraiment altéré sur le plan de l'état général. Donc lorsque vous consultez, c'est difficile. C'est pas un simple virus, c'est pas une simple rhino. Et au moindre doute, vous pouvez en parler à votre médecin traitant.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe.
Dans quelques minutes, nous accueillerons la psychothérapeute Isabelle Filioza pour notre grand dossier du jour consacré aux adolescents, nos ados, qui ont vu leur vie totalement perturbée, eux aussi, avec cette épidémie. Alors, comment les aider à garder certains repères? Comment les supporter aussi quand ils sont encore H24 à la maison, pour ceux qui n'ont pas repris la route de l'école? Tout ça, c'est juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour. C'est la psychothérapeute Isabelle Filioza. Bonjour Isabelle.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous et toutes.
Voilà, vous êtes l'auteur de nombreux livres. Hein. Je vais citer au moins celui-ci, On ne se comprend plus, aux éditions J.C. Lattès. Isabelle Filioza, on vit une période sans précédent en ce moment. On sort de plus de 2 mois de confinement. Et c'est vrai que si nous, les adultes, on a souffert, on en a beaucoup parlé, les ados, je pense, par nature... parce qu'ils sont quand même tout le temps, vous étiez venu nous le dire dans cette émission déjà précédemment, ils sont dans l'hypersocialisation tout le temps avec leurs congénères, donc pour eux aussi ça a dû être particulièrement compliqué, non ?
Ah, c'est certain, la période de l'adolescence, c'est le moment où on a tellement, tellement besoin d'échanger avec les autres, on a besoin d'affiliation, cette socialisation est absolument fondamentale. On s'en rend compte, les parents, souvent, on est un peu étonnés, on dit « mais attends, t'as été toute la journée avec elle au collège, au lycée, et là tu veux encore lui téléphoner, lui parler, etc. Mais qu'est-ce que t'as à lui dire ?» Et en fait, on ne mesure pas que ce n'est pas tant le contenu de ce qu'on dit quand on est adolescent que le simple fait d'échanger, d'être en relation, qui est vraiment important. Donc oui, ça a dû être très, très difficile pour eux pendant toute cette période.
Docteur Jimmy Mohamed.
Isabelle, moi, mon adolescence est terminée vers 25 ans. Et je pense qu'il y a ado et ado. Est-ce qu'il y a un âge où c'est plus difficile? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on peut traiter de la même façon un enfant qui a 11 ans et un autre plus grand vers 18 ans?
Mais c'est clair que c'est différent. C'est, nous terminons tous notre adolescence vers 25 ans, puisque c'est le moment où le cerveau préfrontal termine de se former complètement, 25, voire même quelquefois 28 ans, selon les études.
Jimmy, je ne sais pas si c'est tout et à donc, fait...
Mais donc oui, évidemment, un enfant de 11 ans, c'est encore un enfant, et un jeune de 25 ans, ben c'est plus tout à fait complètement un adolescent, c'est déjà un jeune adulte. Donc bien sûr que c'est différent. Après, chaque individu est différent aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont communes à presque tous les ados, mais là encore, c'est presque tous, parce qu'on ne peut quand même pas mettre tout le monde dans les mêmes catégories et dans les mêmes boîtes. Et voilà, chaque individu est différent, a des besoins spécifiques et un parcours spécifique.
Isabelle Filioza, le gros bouleversement pour nos ados, ça a été aussi de devoir quitter finalement les bancs du collège et du lycée. Ça, c'est du jamais vu. Ils ont dû très très mal le vivre. Même, j'imagine, ceux qui détestaient l'école, ils doivent en venir à ressentir un manque, je ne sais pas.
Alors, il y a un peu de tout, hein, là encore. Il y a des jeunes qui ont plutôt été super contents que ça se termine et qui sont plutôt soulagés du fait de ne pas avoir à y retourner du tout de cette année. Et pour ceux qui terminent avec le bac, de ne pas avoir à y retourner du tout. Et puis, il y a ceux pour qui ça manque vraiment. Mais là encore, ils font quand même leurs études, enfin relativement, pas tous, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de décrochages, mais un certain nombre continue par les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux. Mais ce qui manque vraiment, c'est de pouvoir être ensemble, effectivement, sur les bancs du collège.
Jimmy.
Donc on expliquait aux enfants qu'on n'était pas en vacances, qu'il fallait faire l'école à la maison, et ça a été la plus grande des difficultés, à mon avis, pour les parents, c'est de faire les devoirs. Est-ce que vous avez encore
quelques... Nous, ils sont petits, Jimmy, mais c'est vrai qu'avec des ados, alors il y en a peut-être qui travaillent tout seuls, mais est-ce qu'il faut... c'est compliqué.
Est-ce que vous avez des conseils justement pour des parents ou peut-être des adolescents pour justement vivre cette fin d'année, parce qu'elle n'est pas terminée encore. On parle de reprise, mais elle est très partielle encore.
Mais là encore, c'est ce que je dis, depuis le début du confinement, on est trop focalisé sur les contenus. Or, les contenus, bon, il y a beaucoup de décrochages volontaires, mais il y a aussi beaucoup de décrochages involontaires. Il y a des jeunes qui ils ont un ordinateur dans la famille pour 5 personnes et donc ils ne pouvaient tout simplement pas suivre les cours en ligne. Donc, de toute façon, il y a une grande inégalité. Donc, les contenus, ça n'est pas grave. Les enseignants vont les reprendre dès le début d'année prochaine. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Faire les devoirs en ce moment, bon, c'est toujours un entraînement, c'est toujours ceux qui désiraient les faire, les ont fait. Maintenant, ce qui est le plus important pour nous en tant que parents, c'est de former les compétences exécutives de nos enfants, c'est-à-dire les aider à construire le cerveau dont ils ont besoin pour que lorsqu'ils retourneront au lycée, au collège, eh bien, ce soit très très facile pour eux.
Et on fait ça
et
comment?
Les compétences exécutives, eh bien, c'est apprendre à se concentrer, c'est apprendre. Alors, comment on fait concrètement? Ben, on joue. On joue à des jeux de société, on joue ensemble et on est attentif à est-ce que l'enfant réussit à se concentrer longtemps? Est-ce qu'il arrive à inhiber une réaction? C'est-à-dire que, par exemple, quand on pose une petite devinette, s'il y a tout de suite la réponse qui vient, quelquefois la réponse automatique, ben, c'est un piège. Donc, est-ce que j'arrive, en jouant à un jeu de société, à ne pas bondir immédiatement sur une solution facile et à plutôt prendre le temps de réfléchir, d'analyser?
Donc, on laisse tomber les maths et on fait des devinettes et des jeux de société pour les collégiens et les lycéens à la maison? Non, quand même pas.
Est-ce que on en rigole, mais pourquoi pas?
Non, mais vous avez raison.
C'est plus utile pour eux sur le long terme. Mais... Après, c'est à eux. Nous avons aussi à passer dans un monde où les ados sont plus responsables. Aucun ado ne va travailler sous la coupe de son parent. Donc, ce n'est pas la peine de se disputer là-dessus.
On ne surveille pas leur travail, alors on ne passe pas derrière pour vérifier que tout est fait, tout ça, non?
Non. Par contre, on peut rester attentif à leur travail. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire, on est là en support et on peut leur demander « Comment est-ce que tu vis ça? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? De quoi est-ce que tu as besoin ?» Désires-tu mon aide? Désires-tu ma présence sans aide? Comment est-ce que tu désires que je t'accompagne là-dessus? Mais donc, on va plutôt se présenter en support qu'en contrôle. Plus je cherche à contrôler un ado, plus il va se rebeller et chercher à prendre sa propre liberté. Plus je me recule et je me pose en support, plus il va avoir tendance à pouvoir s'appuyer sur moi.
Jimmy?
Certains ados sont complètement déréglés, ils travaillent la nuit, la journée, ils dorment. Est-ce que c'est grave? Tant que le travail scolaire est fait, est-ce qu'on peut se contenter de ça?
Tant que le travail est... Oui, on peut... Le travail scolaire est fait, alors ça veut dire que l'enfant régule à peu près sa journée, mais quand même, c'est important de regarder ce qui se passe réellement et vérifier si ça ne recouvre pas une dépression, si ça ne recouvre pas une problématique. Alors, est-ce que c'est complètement vivre la nuit et dormir le jour, ou bien est-ce qu'il a seulement décalé son horaire d'endormissement de quelques heures? Voilà. S'il a juste décalé de quelques heures, alors peut-être il s'est calé sur son rythme à lui. Et si les résultats sont là, ça veut dire que ce rythme-là lui convient. Mmh. Et donc, c'est là un super défi pour nous, parce qu'il va falloir peut-être, au moment où l'année prochaine, ils reprendront dans leur structure, obtenir du lycée, obtenir des collèges, qu'enfin, ils modifient les horaires pour commencer plus tard.
Ouais, bon, ça,
c'est tout
c'est
un autre
gagné.
Problème.
Ouais, c'est ça.
Mais si on constate que notre enfant vraiment vit complètement en dehors de nous, finalement, et que du coup, il n'y a plus du tout de contact parent-enfant, eh bien là, on se pose des questions. Mmh. Parce que si c'est normal qu'un ado soit beaucoup dans sa chambre et qu'il soit sur les réseaux sociaux avec ses copains en période de confinement, ok. Mais attention, s'il nous fuit complètement, là, il y a un
problème.
Si jamais on se voit que le minimum vital, c'est qu'il y a un souci, oui. Et là, peut-être, on a besoin d'intervenir et de là encore, se mettre à l'écoute et mettre les pieds dans le plat. Donc, que tu fuis depuis un petit moment, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien en parler.
Merci beaucoup, Isabelle Fidioza. On fait que débuter cet entretien, on vous retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à parler des ados, de leurs difficultés en ce moment, au cœur de cette épidémie, et même en général, comment passer cette période des portes qui claquent et des disputes aussi entre frangins, car les ados sont pour la plupart beaucoup encore à la maison, et quand on est tous les uns sur les autres, eh bien ça peut faire des étincelles. La psychothérapeute Isabelle Fidioza nous aide aujourd'hui à apaiser les relations familiales. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, la psychothérapeute Isabelle Fidioza. Isabelle, beaucoup d'ados sont encore à la maison, on vient d'en parler, car les lycées notamment sont tous fermés. Les collèges, bon, ça dépend des zones. On va terminer sur l'école justement avec vous. Comment on gère avec nos ados l'incertitude aussi, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais des examens, puisque le bac de français, le collège, le bac tout court, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pour eux, ça peut être assez angoissant, ça, non, cette incertitude ?
Oui, bien sûr, c'est forcément un peu inquiétant, surtout pour ceux qui n'ont pas eu d'excellentes notes tout au long de l'année. Un certain nombre d'adolescents, d'élèves, font tranquillement un peu toute l'année et puis mettent un coup, on bachote juste avant le bac pour l'obtenir. Et donc là, cette stratégie échoue un peu. Donc oui, bien sûr, en même temps, tout le monde sait que probablement les examinateurs seront assez tendres. En revanche, ça pose une petite question sur le futur, un peu comme pour le bac de 1968 qui avait été comme donné aux étudiants, aux élèves. Et donc là, il peut se faire que les élèves soient un peu inquiets. Est-ce que mon bac aura autant de valeur que celui des autres? Tout dépend de l'attitude de toute la société envers ce bac. Est-ce que nous allons utiliser ce moment charnière pour changer notre façon d'évaluer les élèves? Est-ce que nous allons, du coup, est-ce qu'ils sont les premiers d'une longue lignée d'un autre bac, ou bien est-ce qu'on reviendra à un bac traditionnel, auquel cas, du coup, effectivement, ce bac, ils peuvent le vivre comme une exclusion nationale, parce que finalement, ne pas passer les examens.
Isabelle Fidioza, excusez-moi, parce que je ne sais pas si vous êtes déplacée un petit peu, la qualité du son est beaucoup moins bonne. Non, mais là, ça a l'air d'aller. Allez-y, on va reprendre. Docteur Jimmy Mohamed, voulez-vous poser une question?
Nous sommes déconfinés, les adolescents sont pour la plupart restés correctement à la maison et désormais ils veulent tous retrouver leurs amis. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette situation, sachant qu'ils ne vont pas forcément respecter les gestes barrières? De ce côté-là, est-ce qu'on peut leur faire confiance?
Alors, plutôt que faire confiance, nous allons les aider à développer ces gestes barrières. Et donc, on peut leur poser des questions et leur demander, tu vas retrouver Ludovic tout à l'heure, et vous allez peut-être être 5 ou 10. Et donc, comment allez-vous faire pour respecter les gestes barrières? Et donc, donne-moi 10 choses que tu vas faire. Et On les aide à réfléchir à leur manière spécifique, parce qu'il y a des choses qui sont très, très difficiles. Comment ils vont faire pour s'échanger des objets, pour se montrer des trucs sur leur téléphone, etc.
S'échanger donc, des baisers aussi, parce qu'il y en a qui se sont manqués amoureusement, donc il y a ça aussi.
En plus, tout à fait. Donc, toutes ces questions-là ont besoin d'être parlées et de voir comment ils vont faire malgré... En fait, on a aussi à pouvoir mesurer quelle est la réalité, la nature du danger. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce que l'autre élève a été aussi confiné complètement avec ses parents depuis le début et n'est pas sorti du tout? Est-ce qu'il est sorti beaucoup? Voilà, on va évaluer, on va aider nos ados à réfléchir. On ne peut pas contrôler complètement. Ils ont absolument besoin de pouvoir échanger les uns les autres et c'est un facteur de protection que d'être ensemble et de se sentir être ensemble. Après, la contagion entre les ados est très faible.
Oui, donc déjà, c'est quand même un tout petit peu rassurant. Revenons à la maison, oui. Isabelle. À la maison, donc, ça peut créer des tensions d'être les uns sur les autres, surtout quand il y a plusieurs ados à la maison. Les frères et les sœurs sont ensemble depuis plus de 2 mois maintenant à la maison. C'est normal que ce soit peut-être un peu tendu dans les fratries aussi. J'entends pas mal d'histoires comme ça, de frères et sœurs qui n'arrêtent pas de se chamailler, qui n'en peuvent plus les uns des autres.
On est frustré, on ne peut pas sortir, et frustré de toutes sortes d'habitudes nous permettent de développer notre énergie, sont interdites. Donc forcément, on est sous stress, en tension. Et quand on est sous stress, en tension, eh bien, la réaction naturelle, elle est d'agresser. Une des choses qu'on fait tous les mammifères, quand on est sous stress, quand on se perçoit en danger, eh bien, c'est d'agresser. Donc, je vais agresser qui ? Mon frère, ma sœur, une personne qui est proche de moi.
Isabelle Filioza, on va arrêter un instant parce que la liaison est vraiment très mauvaise. On va essayer de rétablir ça. On n'en a pas terminé, évidemment. On se retrouve dans un instant. Sans rendez-vous revient dans quelques minutes, juste après donc une courte pause. On va poursuivre cet entretien avec la psychothérapeute Isabelle Filioza sur les ados. Et vous allez voir que de belles choses aussi peuvent émerger avec nos ados dans cette période compliquée. On y revient dans un instant. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Avec nous aussi notre invité du jour, toujours en ligne avec nous. La ligne a été un peu rétablie, je crois, c'est la psychothérapeute Isabelle Filioza. Isabelle, vous nous entendez bien ?
Oui, bien sûr. Très bien. Tu la campagne, c'est ça.
C'est normal, ce sont les aléas, effectivement, des lignes comme ça à distance. Alors Isabelle, on a beaucoup parlé des difficultés des ados dans cette période compliquée avec vous jusque-là. J'imagine qu'il peut y avoir aussi de belles choses, évidemment, qui ont émergé dans les familles pendant l'épidémie. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, par exemple, qu'avec sa fille de 16 ans, avec qui jusque-là c'était un peu tendu, au contraire, pendant finalement ce confinement, surtout, elle s'était mise à faire du sport, elle s'était découverte cette passion commune, entre guillemets, à faire du sport ensemble. Il y a des choses comme ça qui ont pu émerger aussi, de la complicité. Nouvelles.
Tout à fait, c'est vraiment le grand, grand bénéfice de cette période. Alors pour certains, ça ne s'est pas passé du tout, pour d'autres, ça s'est même aggravé la situation, le conflit est devenu vraiment exacerbé, mais pour un certain nombre, eh bien, ça a été l'occasion de se découvrir carrément. Parce que c'est vrai que dans la vie quotidienne, eh bien, on est plutôt là, allez, lève-toi, dépêche-toi, tu dois te dépêcher pour aller au collège, tu vas être en retard, etc. Et ensuite, quand ils rentrent, combien tu as eu en maths? Et globalement, on a une conversation assez limité. Là, on était ensemble et on avait ce défi de trouver des activités et puis de communiquer. Donc ceux qui ont choisi ça, qui ont choisi de rentrer en contact davantage, de finalement profiter de ce temps pour se découvrir, et ça a été vraiment très très bénéfique. Et donc oui, je suis témoin aussi de cela. Un certain nombre d'adolescents sont contents d'avoir tissé des nouvelles relations beaucoup plus profondes avec leurs parents.
Jimmy ?
Malheureusement, ça a été plus compliqué pour certains. Est-ce qu'un ado de, je sais pas, 15 ou 16 ans qui ne veut pas partager d'activité avec les parents, est-ce qu'on doit le forcer à participer, par exemple, à balade en forêt, s'il ne veut pas venir, est-ce qu'on le laisse tranquille ou au contraire, bah, peut-être qu'il va y trouver du plaisir, un peu, pas sous la contrainte, mais
presque.
Presque.
La contrainte marche rarement, mais quelquefois, c'est pas vraiment... On peut faire une incitation assez forte. Hein. Mais après, la question n'est pas juste qu'on se balade en forêt. C'est qu'est-ce qu'on fait en forêt? Et vraiment affronter la raison pour laquelle l'enfant ne veut pas, n'a pas envie de partager du temps avec son parent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de venir? C'est pas... Donc évidemment, au début, je m'en fiche, tu ne m'intéresses pas, tu es nul, etc.
Balade en forêt, on va s'ennuyer, il va dire... dire je m'en fous de la forêt, c'est un peu ce genre de choses. Parce que c'est vrai que là, on vous pose la question en cette période d'épidémie, mais c'est valable tout le temps. Moi, je connais plein de gens qui disent oh, tu sais, lui, il n'est pas venu, mon ado. Hein, quand il y a des familles où il y a plusieurs enfants, ils ne prennent plus l'ado parce que lui, ça fait bien longtemps qu'il ne vient plus avec nous. Et ça, on l'accepte combien de temps et à quel point?
En fait, on a besoin de l'accepter relativement souvent parce que l'ado est dans un cheminement de s'autonomiser. Il a besoin de plus de relations avec des jeunes de son âge et de moins de relations avec les parents et surtout moins de relations traditionnelles. C'est-à-dire que si on a pris l'habitude d'aller en famille en forêt, eh bien, ça va être un peu lourd d'aller en famille en forêt parce que ça ramène dans l'enfance. Mmh. Donc peut-être on peut inventer des nouvelles façons d'être ensemble, faire des choses ensemble, l'inciter à... Là, il y a eu beaucoup de créativité autour de faire soi-même son pain, faire soi-même les pizzas, faire soi-même...
Plutôt des activités comme ça, enfin en tout cas des choses qui lui plaisent. Quoi, ouais.
On peut aussi aller en forêt, mais du coup, on va chercher un intérêt qu'il peut avoir là-dedans. Donc, pas forcément juste se balader comme avant. Il s'agit d'entretenir l'idée qu'il est quand même un ado, il est un futur adulte et il a d'autres besoins. Et puis surtout, donc on valorise son côté grand et puis on cherche qu'est-ce qui fait qu'il a moins envie de passer du temps avec moi. Donc il y a une part qui est naturelle et normale, mais si c'est exagéré et qu'il ne veut jamais rien faire avec moi, là je pose des questions et là j'affronte peut-être bien qu'il y a eu des blessures dans notre histoire commune, peut-être qu'il m'en veut encore d'un certain nombre de comportements, peut-être que quand il était petit, je l'ai frappé. Peut-être que je suis partie pendant 2 mois sans lui donner de nouvelles. Peut-être que... Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire qui a pu le blesser ? Rien n'est irréparable. Nous pouvons tout réparer à condition d'échanger, à condition d'en parler. Et c'est une bonne période pour le faire parce que justement, on est ensemble.
Bien sûr. Alors, il y a certains adolescents qui ont eu très peur pendant cette période aussi pour leurs anciens, pour leurs grands-parents, par exemple. Et c'est normal, on le comprend. C'est important le lien ado avec des ados avec leurs grands-parents. Parfois, ils sont même plus proches, on a l'impression à cette période, de leurs grands-parents que de leurs parents.
Oui, tout à fait, parce que les ados ont besoin des adultes, mais la tension est si forte souvent avec leurs parents qui cherchent à mettre des limites, qui cherchent à les contrôler, que, du coup ils cherchent à s'échapper, mais en même temps ils ont besoin de cette acceptation inconditionnelle dont est capable le plus souvent un grand-parent. Donc oui, nombre d'ados sont soutenus par leurs grands-parents et c'est super comme ça, c'est vraiment important un grand-parent.
D'ailleurs, est-ce qu'il faut séparer les frères et les sœurs là ? Est-ce qu'on peut en envoyer un chez le grand-parent avec qui ça se passe bien et puis un autre chez un copain ou garder le frère ou la sœur ? Ou au contraire, mieux vaut les mettre tous ensemble, même quand parfois c'est un peu compliqué ?
Je pense qu'il n'y a pas de règle générale et ce qui est important, c'est d'en discuter ensemble et de voir avec quoi est-ce que chacun se sent confortable. C'est vrai qu'on a un peu tendance à décider pour tout le monde et à se dire « Ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Mais non, il n'y a pas vraiment de règle générale. Et peut-être une fois, ils ont envie d'y aller tous ensemble, une autre fois, ils ont envie de se séparer. Il n'y a pas... Ce qui est important, c'est vraiment que chacun se sente à la fois respecté dans ses besoins, connecté, en relation avec les autres et qu'il sente qu'il est respecté en tant que personne. Mmh. Et donc, à partir du moment où chacun choisit ce qu'il peut faire et ce qu'il a envie de faire, alors en général, tout se passe bien.
Isabelle, on parlait des grands-parents à l'instant et du lien souvent privilégié quand on les ados avec eux. Ça peut être aussi avec une tante ou... les parents, parfois, on peut se vexer aussi de voir finalement que son enfant, son ado, nous fuit à nous, mais crée des liens avec une autre personne. Est-ce que... Enfin, faut pas en leur en tenir rigueur. C'est important qu'il y ait un référent, même si c'est pas nous, et quelqu'un auprès de qui il se confie.
Mais tout à fait, Mélanie, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance à se vexer. En fait, si on a cette tendance à se vexer, c'est que probablement nous avons vécu dans notre propre histoire des moments de rejet, des moments où nous avons été délaissés par nos propres parents. Et du coup, ça nous rappelle ça. Mais c'est important de mesurer que c'est naturel et normal. Et c'est plutôt sain si notre enfant va rencontrer une tante, un oncle, un grand-parent ou un ami de la famille pour se confier. Parce que ça veut dire que, ça veut dire qu'il est solide à l'intérieur et qu'il sait trouver les ressources pour sortir du conflit, parce que parfois, eh ben, quand on est face à face, les ados, il faut mesurer qu'ils sont habités de réactions émotionnelles, de réactions physiques extrêmement intenses face à leurs parents, et ils n'ont pas ça vis-à-vis des oncles, des tantes et des grands-parents. Donc c'est beaucoup plus facile, ça n'a rien à voir avec la qualité du parent à ce moment-là. Bon, évidemment, si le parent est ultra autoritaire, ça aide pas, mais quand même, même un parent qui serait très à l'écoute, eh bien, il y a besoin de personnes qui soient tierces, qui soient en dehors du conflit relationnel, qui soient en dehors du duo pour aider et fluidifier.
Oui, merci beaucoup Isabelle Fidioza d'avoir été avec nous. C'est toujours passionnant d'écouter vos conseils pour ceux qui voudraient évidemment en savoir plus. Je rappelle le titre de votre livre, On ne se comprend plus, aux éditions J.C. Lattès. Merci encore Isabelle.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission santé revient avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons reprendre nos bonnes vieilles habitudes et répondre à vos questions, celles qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Et oui, les petits et les gros bobos du quotidien sont de retour sur notre répondeur. On revient très vite sur Europe 1.
15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Tout de suite, on retrouve notre vrai faux, vos questions santé, bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle d'Annabelle.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy Mohamed et merci pour votre émission que j'écoute avec attention tous les jours. J'ai une petite question, mon fils est en maternelle, il a 4 ans, il nous fait la Java tous les soirs. Quand il était en crèche, on n'était pas regardant sur les horaires, mais j'aimerais savoir comment on pourrait le convaincre de se coucher plus tôt pour être en forme pour l'école. Je vous remercie, je vous souhaite une belle émission. Au revoir.
Merci beaucoup Annabelle. Alors Jimmy, vous les enfants qui font la Java le soir, j'imagine que vous connaissez, vous avez 3 garçons, j'ose même pas imaginer le coucher chez vous. Ça va, ils se couchent à quelle heure?
C'est l'anarchie en ce moment, cette période de confinement, même de déconfinement, rien ne va plus. Il n'y a plus de règles, on se brosse les dents à 22h30, faut, je dis la vérité, on n'en peut plus. 23h, même minuit parfois, c'est,
oh non
je vous assure, c'est horrible. Parce qu'en plus,
je ne pensais pas que c'était à ce point quand même chez vous.
Mais ils se lèvent à la même heure, aussi tôt le matin, ils nous enquiquinent toute la journée.
Décalé.
Ils font la sieste à 18h, donc vraiment la famille Mohamed est au bord de l'explosion. Bref, vivement la rentrée de septembre, j'en peux plus.
Alors justement, pour vous aider, Jimmy, vous et aussi Annabelle qui nous a posé cette question, on a préféré poser, parce qu'on a vu que vous étiez totalement perdu sur le sujet, la question à une spécialiste. On écoute les conseils de la psychologue Clémence Promsy.
Pour un petit garçon qui est en maternelle aujourd'hui, alors juste s'il est en petite section de maternelle, il fait encore la sieste et c'est des siestes qui sont assez reposantes, donc c'est pas étonnant qu'il soit encore pas trop fatigué jusqu'à 22h ou 23h. Donc peut-être que l'argument bien dormir pour être en forme n'a pas vraiment d'intérêt à ses yeux à lui. Peut-être que de dire qu'en tout cas c'est l'heure des papas et des mamans et que lui, il est pas obligé de dormir mais qu'il reste dans son lit à partir de 21h, 21h30, plus la règle sera quand même stricte et stable, sans s'énerver, sans se fâcher, sans hurler, sans fermer la porte forcément, mais en étant assez ferme très vite, c'est-à-dire qu'on se couche à 21h, à 21h02, on devient vite ferme en disant c'est dans ton lit, et tu peux garder quelques petits livres, un petit avion, ce que tu veux. Il est possible que le sommeil vienne quand même un petit peu plus vite que s'il sort 292 fois dans le salon. Est-ce qu'on va lui voler d'intérêt le soir, par exemple, parce qu'il est content en fait de revenir dans le salon? On va essayer de lui rendre le week-end en invitant des copains de son école peut-être à jouer et en le faisant grandir. Donc on va lui dire voilà, l'heure des parents c'est l'heure des parents, par contre le week-end tu peux faire des trucs de grand, et peut-être même que s'il dort un peu plus calmement et qu'il est plus posé le soir, on pourra peut-être inviter un de ses copains à dormir à la maison.
La carotte, Jimmy, la carotte. Si tu dors à 22h, tu auras un copain. Bon, alors en ce moment, les copains, c'est pas trop
c'est
ça encore. Hein, mais voyez, il y a des solutions. Vous allez y arriver. Allez, 22h05.
Non, mais c'est horrible. Mélanie, soyons honnêtes. Dès qu'on couche les enfants, on a envie d'un moment tranquille avec son époux ou son épouse. Et bien à ce moment-là, on se décale l'heure du coucher. Parce que si on les couche à 22h30, bah, on dit, bah non, on va essayer de tenir un petit peu, regarder un petit film. Du coup, on se couche tard et du coup, on se lève plus fatigué. Bref, vivement, j'assure, vivement septembre qu'on reprenne les bonnes vieilles habitudes. À 19h, tout le monde au lit.
Très bien. Allez, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Olivia. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bon, c'est quoi le poids idéal? Parce que j'ai toujours entendu qu'il fallait un écart de 10 unités entre la taille et le poids. C'est vrai? Merci d'avance.
Alors Jimmy, normalement, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un poids idéal. Hein, on va en parler juste après. Ça s'adapte à chacun. C'est quelque chose de très subjectif, parce que ça dépend aussi du psychologique, du génétique. Enfin, il y a quand même, en tout cas, une mesure qui fait l'unanimité, qui donne au moins une petite idée, c'est l'IMC.
Oui, vous l'avez dit, il n'y a pas de poids idéal. Par exemple, Arnold Schwarzenegger, il fait 1m88, 113 kilos, mais c'est 113 kilos aussi de muscles. Donc on ne peut pas le comparer.
C'est pas comme vous.
Voilà, c'est pas mes 80 kilos, où j'assure, ça n'envoie pas du rêve.
C'est pas que du muscle.
Néanmoins, vous avez avec l'IMC une idée globalement pour savoir si vous êtes dans une zone rouge, une zone plutôt à risque, notamment pour votre santé. Si vous êtes en surpoids,
la zone rouge, rien à voir avec le coronavirus. On est d'accord, vous parlez de la zone rouge.
On peut toujours y revenir, malheureusement, au coronavirus. Et donc, vous pouvez savoir si vous êtes en surpoids, si vous êtes en obésité ou au contraire, si vous êtes en sous-poids. Et donc, on peut calculer l'IMC. C'est plutôt très simple. C'est le poids divisé par la taille au carré. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mathématiques.
Sur Internet, il y a plein de sites où ça se calcule tout
exactement,
seul.
Exactement, voilà. Et vous avez ce chiffre très rapidement.
Très bien. Alors, ça donne quoi comme chiffre, justement? Parce que ça peut donner du 25, du 30.
C'est ça.
C'est comment on voit. Alors, si c'est rouge ou pas rouge.
De 25 à 30, vous êtes en surpoids. De 30 à 35, on considère que c'est une obésité qui est plutôt modérée. Au-delà de 35 jusqu'à 40, c'est une obésité sévère. Et après 40, on parle d'obésité massive ou morbide. Attention.
Donc pour la santé, le mieux, c'est d'être en dessous de 25.
Exactement.
Priori,
même si, encore une fois, Arnold Schwarzenegger, il a un IMC à 32.
Donc, ah oui, vous l'avez calculé.
Il est considéré obèse, mais...
Pourtant, il ne l'est pas, d'accord. Non. Donc, ce n'est pas tout à fait fiable non plus à 100%, ça dépend de la morphologie. Jimmy, une fois qu'on a ce chiffre, on en fait quoi? Parce que, donc, vous l'avez dit, Schwarzenegger, il est à 30. Et
exactement.
Pourtant,
si vous êtes quand même au-dessus, vous êtes en surpoids ou en obésité, je vous invite à aller voir votre médecin, parce que finalement, on se rend compte que c'est pour les risques de complications liés à ce surpoids. Ce n'est pas une question d'esthétisme pour avoir le summer body qu'on n'aura certainement jamais cet été. C'est surtout pour savoir si vous êtes à risque de maladies cardiovasculaires comme du diabète, du cholestérol, et donc consulter, et vous pouvez peut-être même faire un bilan nutritionnel pour savoir pourquoi est-ce que vous en êtes là.
Benjamin Lévesque me dit dans l'oreillette, parle pour toi Jimmy, parce que lui compte avoir le summer body. Alors Jimmy, le poids idéal, donc c'est l'IMC, vous l'avez dit, c'est surtout, il faut voir le médecin, mais le médecin, il va regarder aussi le ventre. Je crois que la graisse au niveau du ventre, c'est très important.
Exactement, c'est le tour de taille, on rappelle les chiffres, c'est 80 cm pour une femme, 94 pour un homme. Et en fait, ce tour de taille, il est très important parce qu'il est associé au développement de complications métaboliques. On l'a dit, le diabète, le cholestérol, les triglycérides et donc les maladies cardiovasculaires. Et à ce moment-là, si vous êtes au-dessus de ce chiffre que j'ai donné de tour de taille, c'est mieux de consulter pour vous éviter des complications sur le long terme, pas sur quelques jours, quelques mois. C'est vraiment pour votre santé. Donc, c'est important de vous prendre en charge.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Olivia, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant, la santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en ligne. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Ah, j'entends les petits oiseaux de nouveau, parce que vous n'êtes pas avec nous encore en studio.
Oui,
vous allez bientôt revenir la semaine prochaine probablement.
Voilà,
mais très bien, en tout cas ça nous fait plaisir de vous entendre et d'entendre les petits oiseaux.
Je vais les enregistrer
oiseaux.
Quand je serai à vos côtés.
C'est ça,
voilà, quand je serai à vos côtés, je viendrai avec mon petit enregistreur.
Très bien. Alors aujourd'hui on va répondre à cette question d'Océane. Je vous la lis, je n'ai jamais compris l'intérêt d'utiliser des aliments comme le chocolat ou la chantilly pendant les rapports sexuels. Pouvez-vous m'éclairer? Qu'est-ce que cela peut bien apporter? Alors c'est vrai que la chantilly, le chocolat, c'est Jimmy, les mange au goûter, mais c'est quoi, Catherine? Est-ce que c'est fréquent d'utiliser les aliments, en tout cas dans dans les jeux sexuels? Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Par exemple, vous en entendez parler vous en consultation?
Oui, je pense que pas tellement en consultation. Je pense que c'est dans la vie de tous les jours qu'on en entend le plus parler, que les gens s'en amusent, que les gens, même en mangeant, parlent de sexualité à l'occasion de l'alimentation et parlent d'alimentation à l'occasion de la sexualité. Est-ce que c'est normal, pas normal? La question, encore une fois, on sait très bien que la normalité, c'est l'équilibre que cela raconte pour nous-mêmes. En fait, ce qu'il faut voir, surtout dans ces aliments mis dans le cadre de la sexualité, c'est ce que ça raconte de fantasmatique. Et pour les uns et pour les autres. Donc si pour elle ne voit absolument pas l'intérêt de cet apport-là, il n'est pas question d'y mêler quoi que ce soit de nourriture dans la sexualité, puisque rappelons-le, la sexualité initialement c'est quand même pour faire des bébés, la nourriture donc n'a pas lieu d'intervenir là-dedans, et dans un deuxième temps c'est de se faire du bien, et c'est à partir du moment où c'est se faire du bien que le bien est défini par chacun de façon très très différente.
Donc,
ça pose plutôt la question pourquoi on éventuellement ce fantasme pourrait-il exister
chez les gourmands?
Tout simplement parce que notre alors chez les gourmands, alors ça pose du coup la question de la gourmandise, et d'où vient la gourmandise, qu'est-ce qu'elle raconte? Et initialement notre lien à l'autre, c'est notre lien à notre mère, donc c'est une relation d'amour, de tendresse, de plaisir échangé qui se fait autour de l'alimentation justement. Donc faire appel du chocolat, de la chantilly ou tout autre goût, et généralement vous voyez que c'est plutôt des choses de l'ordre du sucré, puisque le premier lait, le colostrum est un lait aller très sucré, qui va stimuler l'appétit de l'enfant, eh bien, évidemment que c'est faire appel à ses premiers élans, ses premiers émois, ses premières excitations et ses premiers plaisirs. Mais ça, évidemment que la sexualité ne peut s'y réduire, oui. Sinon ça resterait très archaïque.
Jimmy.
Oui, vous l'avez dit, c'est des aliments plutôt sucrés. Moi, j'adore les lasagnes, mais il ne me viendrait pas à l'idée de l'utiliser pour autre chose qu'un repas le
rapport
midi.
Entre la sexualité et les lasagnes. Alors, Sabine, nous ne l'avez jamais fait encore.
Une couche de pâte, une couche de tomate. C'est voilà. Un emboîtement comme un autre.
Lasagnes dans l'assiette, oui, mais ailleurs, non. Mais est-ce que vraiment, Catherine, ça permet de pimenter un rapport sexuel ou c'est qu'un artifice? Vous avez dit c'est peut-être en rapport
avec
l'enfance.
Faut les épicer, les lasagnes, si vous voulez pimenter. Ouais,
mais, écoutez, si vous mettez de la harissa, je peux vous dire qu'à mon avis, le rapport est terminé.
Mais est-ce que vraiment, vous allez grimper au rideau, mais pas pour les mêmes raisons.
Ah, oui, je vais finir sur au pas de la porte. Mais du coup, est-ce que vraiment ça permet de pimenter un rapport? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour passer un bon moment?
Non, on n'a pas besoin de ça, évidemment. En fait, c'est l'idée du jeu. Est-ce que l'on s'amuse ou est-ce que l'on s'amuse pas? Est-ce que justement, en détournant les choses, il y a quelque chose de l'ordre de l'infraction, hein, en ramenant la bombe à chantilly ou le pot de Nutella, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir et du plaisir interdit qui se mêle à un autre plaisir.
Définitivement, Jimmy, c'est pas une bonne idée.
Non, c'est décidément pas les lasagnes. Et puis en plus, il faut la passer au four. Alors, vous imaginez le truc.
Ouais, c'est meilleur.
Voilà, mais effectivement, je crois que à la fois il y a le jeu de détourner.
Mais comment on joue avec tout ça? Parce que bon, je vous avoue, moi ça m'est totalement inconnu. On en fait quoi de la chantilly?
Alors c'est plutôt une salle d'expert, parce que c'est Mélanie, après quand même, il faut se dire qu'il faut...
On en fait quoi de la chantilly? Mais à votre avis, Mélanie, vous...
Non mais je vois pas comment on joue avec ça, moi, dans ces moments-là, je
Mélanie,
comprends pas. Mais non,
pas...
je vous jure que
bon,
je vois pas.
Catherine, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on fait de la chantilly? On la met où? On en fait quoi?
Alors, le but, c'est de montrer combien on se mange, mais comme on peut pas se manger puisqu'on se ferait du mal, on mange ce que l'on met sur le corps de l'autre ou sur le sexe de l'autre, évidemment. Donc, c'est une façon de dire, tu es appétissant, appétissante, je vais te dévorer, sans que cela laisse naître l'idée de manger au sens sanguin et dangereux du terme. Donc c'est vraiment toute une motivation. Généralement, c'est souvent celui qui veut être léché, caressé, mangé, qui va proposer la possibilité voilà, ça y est, vous commencez, qui va proposer l'idée de soindre de chantilly ou de chocolat pour susciter le goût plus encore ou la gourmandise plus encore. En fait, c'est une sorte, bien qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, ben voilà, là c'est une façon avec le Nutella et la chantilly d'essayer d'attraper l'autre dans un jeu qui dure et perdure. Mais faites attention quand même à l'indigestion, parce que ça pourrait du coup entraîner le dégoût de la sexualité outre de celui de la chantilly.
Il faut faire attention, faut être prudent. Alors c'est la...
oui, il y a
des jeux culinaires,
il faut savoir raison garder, hein.
Il faut pas aller trop loin.
Exactement. Après, il y a aussi d'autres choses. Je crois qu'il y a un jeu masculin beaucoup là-dessus, qui est de dire, par rapport au sperme et le regard un peu de défiance, voire beaucoup de défiance des femmes vis-à-vis du sperme, du coup, de mélanger tout ça avec de l'aliment comestible facilement pour essayer de faire avaler la pilule. Mais vous savez, les gens ne sont pas idiots.
Catherine,
c'est un autre sujet.
Ça y est, ouais. Je sens bien que vous... Voilà, c'est une recette particulière. Je ne suis pas chef étoilé. Voilà. Je suis désolée.
On va s'arrêter là, je pense. C'est très bien pour aujourd'hui. On reparlera de...
Je dis n'importe quoi, hein, c'est ça.
Non,
c'est
non,
vous qui me
tout,
faites dire des choses. C'est parce que vous manquez.
Je crois qu'il y a une
vous
recette
n'avez pas
Mathieu d'imaginaire. Pour tout à l'heure, la cuisine. Bon, on va laisser tomber. C'est pas notre spécialité. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils.
Je vous
évidemment
en prie.
Précieux.
Et merci
comme
pour
toujours.
Cette bonne humeur.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé, Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.